Alors bonjour à tous, merci à tous d'être là, de vous être déplacés. Je sais qu'il y en a qui viennent de loin, donc merci infiniment. Et surtout merci à la librairie Mola de nous accueillir. Je vais vous retracer un petit peu la genèse de ce livre. Avec Lilou, nous nous sommes rencontrés il y a tout juste un an, parce qu'à l'époque, je réalisais un documentaire, et donc je l'ai rencontré dans le cadre de son documentaire. Et j'ai trouvé sa vie si incroyable, si hors norme, que l'idée de mettre cette existence si insolite sur papier m'est vite apparue comme une évidence, comme une envie très profonde. Et donc, sitôt le montage de ce documentaire terminé, j'ai proposé à Lilou d'être sa plume, et elle a accepté tout de suite, ce qui m'a fait très plaisir. Et le résultat, c'est donc ce livre qui, j'espère, vous captivera lors de vos séances plage cet été. L'idée de ce livre, en fait, c'est de comprendre comment les rencontres peuvent influencer, voire déterminer le cours d'une vie, le cours d'une existence, de comprendre comment une très jeune fille innocente peut tomber dans les filets d'un marginal, comme dit Lilou, comment elle consent à rester en couple avec lui, comment elle supporte tout ça, est-ce que c'est par amour, par contrainte. Donc c'est tout cet itinéraire de vie hors norme qui est raconté dans ce livre. Je pense que je vais laisser la parole à Lilou, puisque c'est de sa vie dont il s'agit. Alors Lilou, pourquoi tu as accepté déjà de faire ce livre en premier lieu ?
D'abord, je vous salue à tous. Merci d'être là. Ce n'est pas facile, mais je vais essayer de faire au mieux et de m'en expliquer le mieux possible. Donc j'ai tardé longuement à écrire ce livre, parce que j'ai eu une vie très chaotique. D'ailleurs, ce livre, je tiens à le préciser, je n'ai pas de compte à régler. Je n'en veux à personne. C'est mon destin. J'ai écrit ce livre, c'était une thérapie pour moi, parce que j'ai fait une longue thérapie de 8 ans, qui m'a quand même aidée, parce que j'ai eu de graves séquelles la suite du parcours de ma vie. Et j'ai eu un très mauvais démarrage. Je suis rentrée dans ce système parce que j'ai eu une vie... J'ai une maman qui n'a pas pu me garder, donc elle était fille-mère elle-même, donc j'ai été placée de nourrice en nourrice. Après, j'ai atterri chez des marâtres, je suis partie dans un orphelinat, une pension et la miséricorde. Et après, je vous laisserai découvrir tout ceci dans le livre. Alors, il est vrai qu'il y a des passages très, très durs, qui m'a été très difficile de remettre à jour, parce que je les avais occultés. Parce que bien sûr, quand on souffre, on occulte beaucoup de choses. Et puis là, avec Claire, j'ai dû faire ressortir beaucoup de choses. Ça m'a été très dur, ça n'a pas été facile, mais c'était un choix. Aussi pour moi, et puis par respect pour les gens qui vont me lire. Donc, à ce jour, je dis que, aujourd'hui devant vous, je dis que je ferme le livre. Et je repars, j'en rouvre un autre. Moi, aujourd'hui, dès que je vais vous laisser ce soir, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Voilà. Et ce qui n'est pas facile du tout, croyez-moi. Voilà. Mais ce que je veux que vous, les gens qui vont me lire, surtout sachez une chose, je ne règle pas de compte, je n'en veux à personne. Certes que je suis sortie meurtrie, j'ai traîné un fardeau, j'ai payé très très cher, vous allez le découvrir dans le livre, ma vie de patachon, parce que moi je dis que c'est une vie de patachon. Et puis à ce jour, j'existe. Depuis que j'ai écrit ce livre, que le livre est terminé, que nous avons fait avec Claire, et grâce à Claire, et j'existe, je suis devenue, j'existe. Je ne me cache plus, je n'ai plus peur du regard des autres. Car avant de me regarder, j'étais très agressive. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me regarder? Voilà. Je pensais que... Mais je ne vais pas tout vous dévoiler, parce que sinon, vous n'allez pas lire le livre. Ou pour ceux qui l'ont lu... Voilà, ou pour ceux qui l'ont lu... Alors Arlette, et pour ceux qui l'ont lu, ils ont dû voir quand même qu'il y avait des passages, je ne sais pas s'ils l'ont ressenti dur ou pas, mais ça n'a pas été facile de le dire. Voilà. Et ça surtout, ce que je veux que les gens ils sachent, que j'ai fait ça justement pour me nettoyer, pas pour blâmer qui que ce soit. Au contraire, je respecte ma maman est décédée. Le papa de mon fils qui est dans la salle, il n'est pas filmé pour son travail. Et à lui, je veux surtout lui dire que tu peux être fier de ton père, mon fils. Et il ne faut pas mélanger ce que j'ai eu moi et ce que tu as toi.
Merci Lilou. Donc peut-être qu'on va parler un petit peu du contenu du livre, comme ça, ça va donner envie à tout le monde de l'acheter. Quelle a été pour toi la période, tu dirais, la plus marquante de ta vie jusqu'ici, celle qui t'a le plus
Alors, marqué. Ce qui m'a marqué le plus et que j'ai souffert le plus, c'est la séparation de mes enfants. Mmh. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'ai 3 enfants et à ce jour, il n'y en a qu'un qui me parle. Les 2 autres ne me parlent plus.
Oui, alors, parce que donc, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a toute une période de ta vie où tu as dû partir en Espagne, voilà. En cavale, comme on dit, et tu n'as pas pu prendre ta fille avec toi, donc c'est notamment à cause de ça. Comment ça se passait, cette cavale? Comment tu vivais au quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire, vivre en cavale?
Alors, vivre en cavale, c'est tu pars du jour au lendemain avec une valise, presque rien, et avec une fausse identité. Puisque comme on est recherché par Interpol, par la police, donc on est sous une fausse identité, donc des faux papiers. Donc je m'appelais Stéphanie. Et donc je suis partie en cavale, nous sommes partis en Espagne, donc avec de faux noms. Il a fallu s'installer, il a fallu repartir. Donc là j'étais partie avec mon fils, parce que j'ai 3 enfants. J'ai une fille qui a à ce jour 45 ans et mon autre fils qui a 44 ans. Ma fille, je ne l'ai pas amenée parce que je l'ai laissée chez ma mère, parce que je ne voulais surtout pas qu'elle passe par où j'étais passée. Ça a été ma hantise. Et mon fils, mon autre fils, je l'ai trimballé avec moi. Il est venu en cavale avec nous. Il a vécu des choses difficiles. La police nous a tiré dessus. On n'a pas été blessé à part le chauffeur, c'est tout. Enfin, c'est tout. Hein.
Il doit s'en souvenir.
C'est pas mal. Lui, il s'en souvient. Voilà. Et puis après, il a fallu repartir, mais encore à zéro. Alors, il faut dire que quand on est en cavale, ça coûte excessivement cher, parce que tous les 3 mois, il faut changer d'appartement. On ne peut pas rester toujours au même endroit. Donc, un jour, c'est Barcelone, un coup, c'est Sitges, un coup, voilà, on est obligé. Et chaque fois, de changer d'appartement, donc ça veut dire les valises, enfin, le peu qu'on a, le gosse et en avant, voilà. Jusqu'au jour où vous faites rattraper, voilà.
Alors, justement, quand on est en cavale avec un petit garçon, comment on lui explique la situation? Avec quels mots?
Alors moi, mon fils, quand on est parti en cavale et qu'on s'est fait tirer dessus par la police, lorsqu'on passait la frontière, il demandait qu'est-ce que c'était. Moi, je lui ai dit, c'est les gendarmes et les voleurs.
Et il t'a cru?
Oui, parce qu'après, il disait, maman, où sont les Indiens? Tout petit.
Voilà. Et alors, Lilou, comment s'est terminée cette cavale? Parce que forcément, quand on vit comme ça, ça
alors,
a une fin.
Alors, cette cavale s'est terminée. Je me suis fait... nous sommes fait arrêter. Je suis allée en prison, en Espagne. C'était du temps de Franco. Alors, je ne vous dis pas comment ça s'est passé. Vous le verrez dans le livre. Après, mon fils était en prison. Le papa était en prison aussi. Après, moi, j'étais estradée par Interpol sur la France. J'ai été de nouveau incarcérée pendant 18 mois à Fleury-Mérogis. Sachant que je laissais mon mari en prison et mon fils. J'ai été privé mon fils de 2 ans. Il était chez une nourrice, certes. Il avait des nouvelles. Il croyait que moi, j'étais à l'hôpital, parce qu'on avait des amis encore en Espagne qui s'occupaient de lui. Mais enfin, bon, il n'avait ni son papa ni sa maman. Voilà.
Alors, Lilou, tu l'as évoqué, tu as été donc incarcérée tout. Toi-même. Il y a très très peu de femmes qui sont détenues en comparaison au nombre d'hommes. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, ton quotidien à Fleury-Mérogis, à quoi ressemblaient tes journées? C'était des journées blanches, tu avais perdu la notion du temps, enfin, qu'est-ce que tu faisais?
Des journées blanches, non, elles étaient assombries. Elles étaient assombries parce que je vivais dans la tristesse, de toujours et mon fils quand, et quand est-ce que je vais sortir, et combien je vais prendre, parce que je n'étais pas encore jugée. Parce que j'avais pris 30 ans en Espagne, alors qu'il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait rien du tout. C'est parce qu'on était sous fausse identité, que j'avais pris un restaurant sous fausse identité. Et chez moi, parce qu'il est vrai que le papa de mon fils côtoyait des gens de Marseille, des gens de Lyon, des gens de Grenoble, des marginaux. Moi, voilà, des marginaux, à part entière, certes. Ce qui fait qu'un jour, quand ils étaient là, ils étaient en train de tous manger, quand il y a eu une descente de police, les gens, ils ont jeté, parce qu'ils étaient armés, ils ont jeté les pistolets dans le bar. Donc, il y avait 11 pistolets. Et comme moi, j'étais la patronne du restaurant, j'étais inculpée. On m'a mis les 11 pistolets à mon insu.
Parce qu'en fait, ils les avaient jetés sous les sièges.
Sous les banquettes,
ça, voilà, pour ne pas avoir les armes sur eux au moment où ils allaient être arrêtés. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé en garde à vue? Tu n'as pas voulu dénoncer,
alors,
c'est pour
non,
ça.
Alors, puis non, on n'a pas le droit. À l'époque, on a une règle, les gens ne parlent pas. Ou si on parlait, on ne nous retrouvait plus. Il y avait ça aussi. Et puis moi, lorsque j'étais arrêtée, maltraitée par la police, j'ai eu peur. J'ai senti le moment où j'allais... ce que chez nous, on parle, vous n'allez peut-être pas le comprendre, mais je vais vous l'expliquer après. Chez nous, on dit balancer, c'est-à-dire ça fallait balancer. C'est les termes qu'on emploie, nous, dans la marginalité.
Bah, y a un glossaire à la fin du livre, pour ceux qui ne maîtrisent pas.
Et je sentais le moment où parce qu'avec les coups, j'en avais tellement pris, j'avais la lèvre exposée, le nez explosé. J'ai dit, je vais craquer, je vais dire, je vais dénoncer tout le monde. Donc, pour ne pas le faire, je me suis coupé les veines. Voilà. Donc j'étais hospitalisée, enfin je suis partie à l'hôpital, et de l'hôpital, on m'a amenée à la prison de Barcelone.
Oui, mais tu n'as pas voulu mettre fin à tes jours, en fait tu as fait ça pour
que
les policiers aient peur.
Voilà, pour ne pas parler, voilà. Voilà, non, parce que c'était des heures du temps de Franco, c'était horrible, c'était des 48 heures de garde à vue, maltraitées.
Oui, puis parfois c'est violent, tu as perdu des dents au cours
oui.
de
ces... Non, mais ça c'est en France.
Oui.
Quand j'étais arrêtée après avec Carlos en France, comme je ne voulais pas parler, on m'a mis une gifle, et comme il y avait le radiateur à l'époque, il y avait vous savez, ces grosses... comment on appelle ça?
Les boulons.
Voilà, pour régler. J'ai la joue qui a tapé dedans, donc j'ai perdu 3 dents.
Et alors, tu dis que tu ne voulais pas t'affaler, comme tu dis qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Est-ce que, justement, tout ce milieu-là a changé aujourd'hui? Est-ce que les gens parlent beaucoup plus facilement aujourd'hui?
Ah ben maintenant, il faut les taper pour qu'ils se taisent. Avant, ils nous tapaient pour parler. Là, maintenant, ils les tapent pour se taire. C'est pas pareil.
Et donc, Lilou, un autre élément marquant de ton parcours, c'est que tu as soutenu donc, les hommes de ta vie. Certains ont été incarcérés. Mm-hmm. Et tu t'es mariée 2 fois en prison.
Ah, je suis répétitive, moi.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, un mariage en prison?
Oh, mais c'est ce qu'il y a de plus banal. Il y a l'adjoint du maire qui est là-haut, parce que tu n'as pas la chance d'avoir le maire, bien sûr. Tu as 2 gardiens de prison, deux gardiens de prison. Et puis, tu as l'adjoint du maire. Et puis, voilà, voulez-vous épouser un tel? Oui. Et puis, clac-clac, tu entends les clac-clac, et puis tu t'en vas. Et tu as 1 heure de parloir, à titre gracieux.
Voilà. D'accord, voilà. Mais tu n'as pas de moment avec ton
nouveau
mari.
Il n'y a pas de moment affectif, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de moment affectif, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de champagne, tout ça, c'est faux. Hein.
D'accord, donc c'est un mariage qui dure 5 minutes.
Tout à fait.
Pour le meilleur et pour le pire.
Plutôt pour le pire.
Et donc après, ces hommes, tu les as soutenus, tu es allé les voir toutes les semaines au parloir. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment les parloirs ont évolué au fil du temps? La première fois, c'était un parloir hygiaphone.
La première fois que j'étais incarcérée, il n'y avait pas les télévisions, on n'avait pas la télévision, on n'avait rien du tout. C'était une petite pièce où on avait un lit, un lavabo et une toilette dans l'enceinte de la pièce. Et tous les matins, il fallait lever son lit, l'accrocher. On n'avait pas le droit de s'asseoir sur le lit la journée. Et on avait un tabouret. C'est tout ce qu'on pouvait faire, c'est un tabouret. Et on écoutait RTL, parce qu'on n'avait pas de télévision, on n'avait pas tout ça. Voilà. Donc maintenant, ils sont bien modernisés.
Et alors, au niveau des parloirs, avant, il y a eu les vitres, puis il y a eu les grilles. Et maintenant, c'est des petites pièces, c'est ça?
Oui, alors après, il y a eu les hygiaphones, c'est-à-dire c'est derrière des glaces, avec des petits trous. Alors donc, on se met comme ça, où on essaie de mettre le petit trou là-même pour essayer d'avoir un petit contact. Et puis après, il y a eu les parloirs où on est face à face.
Et alors, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu ce que ça signifie être compagne ou femme de détenu? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie quotidienne?
Alors être la femme d'un, je vais employer le terme d'un marginal ou d'un voyou, comme c'est subir, suivre et se taire.
D'accord. Et donc, en fait, quand ton compagnon est incarcéré, tu es en prison, toi aussi, quelque part?
Oui, tout à fait.
Donc, c'est-à-dire, tu cales tes dates de vacances éventuelles en fonction de lui. Si tu travailles, tu dois t'arranger pour pouvoir aller voir un
parloir. Ah non, mais tu vis au détriment de lui. Vis au détriment de lui, bien sûr.
Donc, toi, par exemple, tu repassais le linge, tu l'accompagnais
Ah oui, je faisais tout, bien sûr. Oui, hormis d'être en cavale, j'étais une femme normale. Enfin, je pensais être une femme normale. J'allais au quotidien, je vaquais au quotidien. Je faisais mes courses comme tout le monde, peut-être, avec des perruques.
C'est-à-dire, c'est quoi les perruques?
C'est-à-dire que, comme on était recherché, ce qu'on appelle chez nous grimer.
D'accord. Voilà. Oui, et à un moment donné, d'ailleurs, ce qui est raconté dans le livre, c'est qu'il y a un de tes compagnons qui est en cavale, et toi, pour aller lui rendre visite, tu as recours à une amie
Mon deuxième mari s'est évadé de Gradignan, de la maison de Gradignan, et puis je suis restée 2-3 mois sans pouvoir le voir, parce que ça, j'avais la police sur moi, et, tout le temps, j'étais suivie, c'était normal, parce qu'il voulait l'attraper. Donc, je travaillais dans un restaurant d'un ami, une discothèque. Et à la fermeture, j'avais une autre amie avec moi. Je lui fais rigoler parce qu'il y a quelqu'un dans la salle que je ne citerai pas. D'ailleurs, ça me fait énormément plaisir que cette personne soit là, qui a vécu nos arrestations. Enfin, pas nos arrestations, mais nos transferts. Voilà.
D'accord.
Donc, je te remercie d'être là. Voilà, il se reconnaîtra. Et puis, pour en revenir à mon mouton, j'en étais où ?
Eh bien, tu n'avais pas vu Henri depuis plusieurs mois, et donc tu as voulu aller le voir.
Donc moi, je voulais aller le voir parce que je l'aimais, bien sûr. Donc je m'étais acheté des perruques, une rousse, une blonde, le contraire de ce que j'étais, en fait. Et j'avais une amie
Parce que tu étais brune à l'époque.
Voilà. C'est ça. Et j'avais une amie à moi, qui, son mari, elle aussi, était incarcérée avec le mien pour la même affaire. Elle arrivait par une autre porte, et c'est-à-dire qu'elle mettait la perruque comme j'étais moi. Et moi, je me déguisais, je reprenais, donc je partais avec une voiture, des voitures relais, ce qu'on appelle les voitures replaquées, relais. Voilà, j'allais jusqu'à la destination où était caché mon mari. J'ai fait ça pendant pas mal de temps.
Et alors, ce qu'il y a de particulier aussi dans ton parcours, c'est que tu t'es retrouvée impliquée bien malgré toi dans une affaire à cause d'une machine à laver.
Oui. Alors ça, c'est avec le dernier, parce que j'ai répété 3 fois, messieurs, dames, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais vous comprendrez pourquoi quand vous allez le lire. Avec mon dernier mari, il avait des problèmes, tout. J'avais des problèmes de machine à laver. On était séparés. Il m'a dit, je vais t'acheter une machine à laver. Ah oui, la machine à laver, ça m'a coûté les assises, ça m'a coûté la prison, les assises. Voilà.
Alors, à cause, pourquoi ? Vas-y.
Alors, parce que il avait fait un braquage de banque. Pas de gens maltraités, pas tout ça. Hein. Et puis, il m'avait mis de l'argent dans la boîte à lettres. Seulement, dans l'argent, il y avait des billets piégés. Voilà. Donc, comme j'étais son ancienne compagne, même si on était séparés, savoir que la police venait toujours me chercher à moi, je ne sais pas pourquoi, je dois avoir une tête à ça. Je suis allée en garde à vue, et quand je suis allée en garde à vue, il y avait le commissaire, M. Mathéo, je peux le dire parce qu'il m'a dit que je pouvais en parler, m'a dit, t'es mal barré, Lilou. J'ai dit, pourquoi ? J'ai rien fait. Il me dit, si, il me dit, tu vas, parce qu'il parle comme ça, tu vas au ballon. J'ai dit, pourquoi je vais aller au ballon ? J'ai rien fait. Donc, dans les billets, il y avait 3 billets piégés. Donc, j'ai fait 4 mois de prison. En étant malade, parce que j'étais en soins de cancer. Et puis, ça m'a coûté les assises. Pour un recel de billets. Cher payé.
Et alors, Lilou, donc, tu l'as mentionné, tu as répété cette histoire 3 fois. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu aurais pu arrêter ou bien tu as été prise dans un engrenage ? Est-ce que tu aurais pu quitter ce milieu ?
Alors, j'ai essayé de J'ai essayé de quitter ce milieu. Je ne vais pas en parler pourquoi. C'est mon fils.
D'accord. Voilà. Vous verrez dans le livre, ça vous fait une bonne raison.
Par respect pour mon fils, si vous pouvez le comprendre, je ne préfère pas en parler parce qu'il est là et je ne suis pas là pour dédaigner son père. Voilà. Excusez-moi, c'est le respect par rapport à mon fils et sa petite fille aussi qui est là quand même.
Alors, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à une compagne de détenue ? Enfin, qu'est-ce qu'elle doit faire pour garder la tête hors de l'eau pour...
C'est très difficile de garder la tête hors de l'eau. Il faut être très fort. Il faut être très, très, très forte parce que c'est un combat permanent journalier. C'est un combat permanent. C'est journalier, c'est dur. Parce qu'on doit affronter le... On vit avec les cavales, on vit avec les enfants, parce qu'il faut dire que quand vous êtes en cavale, vous ne voyez pas vos enfants. Hein, parce que vous les mettez en danger aussi. Hein.
Et alors, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme, je ne sais pas moi, de 25 ans, qui serait amoureuse d'un homme ayant des problèmes avec la justice?
Je vais être vulgaire, casse-toi.
D'accord.
Casse-toi vite. Si tu rentres dans un cheminement, c'est horrible. Mm. C'est horrible parce qu'il faut savoir qu'on a, attention, on a des bons moments. On a quand même des moments parce qu'on a de l'argent facile. Je ne suis pas là pour faire voir, il faut être réel. Moi, je suis là, je vous parle franchement avec mon cœur. C'est vrai, on a des moments de bonheur, entre guillemets, parce qu'on a de l'argent. On peut s'acheter de belles voitures, on peut s'acheter... Mais tout ça, c'est factice, en fait. C'est factice, c'est un leurre. Parce que la réalité n'est pas là. Parce que quand il faut payer et que vous faites l'addition, c'est lourd. C'est lourd. Vous voyez, moi, j'ai fait 62 ans il y a 2 jours. Je peux vous dire qu'à 62 ans, je souffre énormément. Parce que j'ai un fardeau que je me trimballe. Mon amie Coco, elle est là pour le savoir. Parce que c'est une personne que je tiens, je m'amène partout. Et je tiens parce que si je suis là aujourd'hui, que j'ai la possibilité de vous parler, c'est grâce à elle. Parce que j'ai voulu mourir. Je suis arrivée à un non-stop. J'ai voulu mourir. Et puis, il y a des moments où j'en peux plus. Parce que de ce passé, je garde des séquelles très graves. J'ai passé des années à me laver la javel. Vous saurez pourquoi dans le livre aussi. Voilà. Donc, vous savez, c'est des vies... On vit avec le fric, oui. Mais à côté, c'est catastrophique ce que ça fait. Et je serai meurtrie toute ma vie, même si aujourd'hui, comme je vous dis, je suis là, mon livre, je le ferme, mon histoire, je la ferme. Je repars, dès que je m'en vais d'ici, je repars dans une nouvelle vie pour moi. Mais mon fardeau, je l'aurai toujours. Ça m'arrive toujours de pleurer la nuit, bien sûr, c'est factice tout ça. Des fois, je fais le sourire, mais je ne suis pas tout le temps comme ça.
Oui, parce que tu as une apparence très joviale, très enjouée, tu fais tout le temps des blagues. Oui. Et donc, il y a vraiment un décalage entre ce que tu dégages et ce que tu es.
Oui, parce que depuis mon enfance, je me suis formée. Je me suis formée, j'ai vécu avec les clochards, j'ai dormi dans les portes cochères avec ma fille. Donc, je suis assez endurcie quand même. J'étais endurcie.
Et merci à tous vraiment d'être venus et de vous être déplacés.